France Inter. 7-10.
Lundi 4 mars, bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, la France s'apprête à vivre un moment historique.
En devenant le premier pays au monde à inscrire l'avortement dans sa constitution, le vote du Congrès est attendu cet après-midi. Un témoignage rare dans ce journal, celui d'une grand-mère qui a pu rendre visite à ses petits-enfants détenus en Syrie avec leur mère partie rejoindre Daesh. En Seine-Saint-Denis, enseignants et parents d'élèves dénonce une dégringolade sans fin de l'école publique. Et puis en rugby, les Bleus d'Antoine Dupont triomphent à 7 à Los Angeles.
Les invités, rendez-vous d'Inter ce matin. À 7h15, un zoom exceptionnel en Iran. Que reste-t-il du mouvement Femme, Vie, Liberté? Et puis à 7h50, bonjour Sonia De Villers.
Bonjour à tous. Valérie Ayé, 37 ans, députée européenne depuis 2019. Elle vient d'être désignée tête de liste du parti d'Emmanuel Macron aux élections européenne. À ce jour, elle est donnée 10 points derrière la liste de Jordan Bardella dans les sondages. Alors, mission impossible, on lui pose la question à 7h50.
À tout à l'heure, l'IVG dans la Constitution, on en parle dans le grand entretien avec Mathilde Panot, Mélanie Vogel, Agnès Canayer et Véronique Rioton. 9h20, Léa Salamé reçoit Agnès B.
Les féministes n'ont pas peur des mots et parlent d'un événement mondial, car c'est aujourd'hui que la France entre dans l'histoire. Au pays des droits de l'homme, la liberté des femmes va être gravée dans la Constitution, leur liberté garantie d'avoir recours à l'avortement. Premier pays du monde à l'écrire explicitement dans un texte fondamental. Pour cela, le Parlement réuni en congrès, députés et sénateurs se retrouvent à Versailles cet après-midi pour le vote de cette réforme constitutionnelle. Il faut les voix des 3/5 des parlementaires, soit au moins 555, sauf énorme surprise, Simon Le Baron, cela ne devrait poser aucune difficulté.
493 à l'Assemblée nationale, 267 au Sénat, au total 760 parlementaires ont déjà voté en faveur de ce texte en première lecture. Aucun suspense et l'opportunité pour Emmanuel Macron de laisser une trace. Le droit à l'avortement est de plus en plus attaqué dans le monde. C'est sous son mandat que la France sera devenue le premier pays à le graver dans le marbre, en tout cas en des termes aussi clairs. Un combat porté d'abord et avant tout par la gauche. Jean-Luc Mélenchon le promettait dès 2012 dans son programme. Les sénateurs communistes avaient déposé une proposition de loi en 2017 et la chef du groupe insoumis Mathilde Panot a été la première à faire voter un texte en 2022 à l'Assemblée. Une bataille culturelle qui a fini par gagner la droite et l'extrême droite. Un peu plus de la moitié des sénateurs LR valides, un peu plus de la moitié des députés RN aussi, y compris Marine Le Pen, qui parlait il y a 12 ans d'avortement de confort. Une classe politique en accord avec l'opinion publique, les sondages montrent que les Français approuvent très largement cette inscription de l'IVG dans la Constitution.
Le Congrès s'ouvre à 15h30. Il sera retransmis sur écran géant, place du Trocadéro à Paris. Alors que vous l'avez dit, Simon, le droit à l'avortement recule en Europe de l'Est ou aux États-Unis. Il y a 2 ans, la Cour suprême avait statué que la Constitution américaine ne garantissait pas ce droit. 14 États avaient alors totalement interdit le recours à l'IVG, dont le Texas, 30 millions d'habitants et plus que 3 cliniques qui continuent à aider les femmes pour qu'elles puissent avorter ailleurs. Reportage de nos envoyés spéciaux à Houston, Alexandra Bergel et Sarah Mansoura.
Dans une ambiance feutrée, les patientes sont reçues dans un écrin de douceur. Environ 200 se succèdent chaque mois. Une goutte d'eau, alors qu'à Houston, on dénombrait jusqu'à 3000 IVG mensuels. Glenda enchaîne les échographies.
Elles arrivent pétrifiées, elles ne savent pas où aller, elles ont l'impression qu'en vivant au Texas, c'est illégal pour elles d'aller avorter ailleurs. On a beaucoup de patientes en pleurs, c'est difficile.
Difficile car leur santé, voire leur vie, est menacée. Les médecins hospitaliers craignent désormais d'aider les femmes développant des complications pendant leur grossesse. Cathy Kleinfeld, administratrice de la clinique.
Ce sont d'horribles conséquences. 4 femmes avec des grossesses extra-utérines ont été refusées à l'hôpital. On leur a demandé d'attendre et de revenir.
Situation révoltante, dit-elle, qui l'engage d'autant plus à continuer ses soins pré- et post-opératoires. Mais le combat, assure Cathy Kleinfeld, est aussi à mener dans les urnes.
On le dit tout le temps à nos patientes qui nous demandent « Mais comment en est-on arrivé là ? J'ai avorté il y a 5 ans, etc. » On leur dit « C'est parce que Trump a été président et qu'il a nommé des juges ultra-conservateurs à la Cour suprême. »
Un message qui s'affiche jusqu'au mur de ce centre de soins. « Votez, est-il écrit, vos droits en dépendent. »
Et on reparle de ce vote tout à l'heure avec vos invités, Nicolas, à 8h20 aux États-Unis. Toujours une première victoire très symbolique de Nikki Haley, la seule concurrente de Donald Trump aux primaires républicaines. Elle a remporté cette nuit celle de la capitale Washington, où les républicains sont ultra minoritaires, moins de 30 000 selon les estimations. Les démocrates, de leur côté, travaillaient par le soutien de Joe Biden à Israël. La vice-présidente américaine a interpellé cette nuit le gouvernement israélien. Kamala Harris appelle à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et à la libération des otages. Les négociations sont toujours en cours au Caire, auquel Israël a décidé de ne pas participer. C'est une première en Syrie. Des grands-parents français ont pu rendre visite à leurs petits-enfants détenus par les forces kurdes dans un camp dans le nord-est du pays. Un camp qui abrite une centaine d'enfants français et leurs mères, ces familles qui ont rejoint le groupe État islamique. Jusqu'à présent, les visites étaient impossibles, mais des représentants du collectif des Familles Unies, les proches de ces Français, et deux avocats ont pu se rendre sur place. Noé Pignon a recueilli leur témoignage en exclusivité ce matin sur France Inter.
9 ans que Suzanne attendait ce moment. La semaine dernière, au milieu du désert syrien, elle a enfin pu voir ses petits-enfants détenus avec leur mère dans le camp de Roj.
Je les sentais vraiment très très heureux de pouvoir nous rencontrer. Et le petit qui est né dans le camp, il s'est tout de suite assis sur mes genoux et m'a couvert de câlins. Nous avons parlé, on avait tant de choses à se dire. Depuis toutes ces années.
En 2015, le fils et la belle-fille de Suzanne quittent la France pour rejoindre Daesh en Syrie. Depuis la défaite territoriale du groupe terroriste en 2019, ses petits-enfants sont prisonniers et vivent sous une tente.
Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'école, pas de soins. Vraiment, j'ai vu dans quel enfer ils vivaient.
Une rencontre de quelques heures surveillée de près par les gardes kurdes, puis les adieux.
Ce fut déchirant, déchirant de les quitter. Je me souviendrai toujours quand on était dans la voiture, qu'on leur disait au revoir et qu'ils étaient tous à nous regarder partir. Et nous, on les a laissés là, derrière ces barbelés. Ces enfants ont assez souffert. Il n'y a qu'une solution, il faut les ramener vite.
169 enfants français ont été rapatriés depuis la chute de Daesh il y a 5 ans. Il en reste aujourd'hui une centaine, toujours prisonniers en Syrie.
L'état d'urgence décrété en Haïti, le couvre-feu dans la capitale, des gangs armés ont attaqué un centre pénitentiaire pour faire s'évader des milliers de détenus. L'attaque a fait au moins une dizaine de morts.
Il est 7h08, pas assez de chaises pour les élèves. Des locaux infestés par les rats, parents et enseignants se mobilisent en Seine-Saint-Denis.
Dans ce département le plus pauvre de l'Hexagone, là où les moyens sont paradoxalement les moins importants, en Seine-Saint-Denis, un enfant perd en moyenne 1 an de cours sur sa scolarité. Alors depuis une semaine, les professeurs sont en grève, les parents n'envoient plus leurs enfants en classe. La goutte d'eau, la réforme des groupes de niveau, tri des élèves, école de caste, dénoncent les syndicats. Reportage au collège Victor Hugo d'Aulnay-sous-Bois, Sonia Princy.
Sur les grilles du collège, 3 banderoles sont accrochées. Pour un plan d'urgence contre les groupes de niveau, parents, rejoignez-nous. Et justement ici, les parents d'élèves sont aux côtés des professeurs. La plupart n'ont pas envoyé leurs enfants au collège vendredi dernier.
Pour montrer aussi notre mécontentement.
Khadija Doui est représentante de la FCPE.
Ce qu'on veut, c'est être entendu. C'est important que les parents soutiennent ce mouvement. Les professeurs se battent pour nos enfants.
Ils se battent pour obtenir un plan d'investissement avec des créations de postes pour pallier les manques, comme le dit Paul-Arthur Chevaucher, professeur au collège Victor Hugo d'Aulnay-sous-Bois et du syndicat Sud Éducation.
On le sait, la Seine-Saint-Denis est quand même le département le plus pauvre de France métropolitaine. Il est extrêmement sous-doté en moyens. On croit parfois qu'il y a de l'éducation prioritaire et qu'en fait on donne plus de moyens. Mais la réalité, c'est que le service public ici, il est très dégradé par rapport à ce qui peut être ailleurs en France.
Et l'annonce de groupes de niveau où les élèves les plus faibles resteraient entre eux a fait monter la colère d'un cran, selon cette autre enseignante, Axel Thévaux.
Ça créerait en fait des écarts encore plus colossaux qu'on a déjà en fait. Et un élève qui a des difficultés, très souvent, nous on en fait l'expérience en classe, ben c'est peut-être parce qu'il a son camarade à côté qui y arrive, qui va pouvoir le faire également.
Les enseignants du collège seront à nouveau en grève en fin de semaine et ils espèrent emmener avec eux les professeurs des écoles.
Grève prévue jeudi et vendredi. Autre mobilisation ce matin, les taxis remettent le couvert, toujours contre la nouvelle tarification des transports sanitaires. Opération escargot prévue dans 1 heure sur le périphérique parisien. Accès compliqué à la rocade toulousaine. Manifestation aussi à Bordeaux, Nîmes ou Rennes. Explication dans 1 demi-heure. Le procès va durer plus de 2 mois. Ouverture cet après-midi à Paris du procès du déraillement du TGV Est. Cette rame d'essai pour le dernier tronçon de la ligne à grande vitesse avait déraillé le 14 novembre 2015 à 20 km de Strasbourg après une courbe à 265 km/h, bien au-dessus des 176 prévus. Bilan 11 morts, une quarantaine de blessés dont la moitié gravement. Sur le banc des prévenus, la SNCF, deux de ses filiales et trois personnes physiques. On y revient à 8h. Des dizaines de centimètres de neige fraîche, de fortes pluies et des rafales de vent météo dantesques dans les Alpes-Maritimes et le Var. Des arbres tombés par paquets en montagne, risque d'avalanche sur la Haute-Maurienne et le Queyras. Comment inciter à consommer, à acheter des produits dont on n'a pas besoin? Dans ce domaine de la surconsommation, l'imagination semble n'avoir pas de limite. Après la mode des colis surprises, ces colis prétendument des commandes égarées qu'on achète au poids sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur, et bien voilà que la grande distribution invente les chariots surprises. Pour 50 euros, vous achetez un caddie sans connaître son contenu, mais dont la valeur est trois fois plus importante. Reportage dans cet hypermarché de Drancy, Armand Morera.
Au détour des rayons de l'hypermarché, 10 caddies sont entourés d'un film plastique noir. Ils sont tous numérotés, alors Laurent n'a pas choisi le sien par hasard.
8 mars, c'est mon anniversaire. Il y a l'huile devant moi.
Vous devinez un petit peu ce qu'il y a ou...
Même pas, on découvre.
Et avec l'inflation, des réductions, ça fait toujours plaisir.
La vie, elle est trop chère. On va voir ce qu'il y a dedans. 50 euros pour 150 euros d'achat, ça peut valoir le coup.
Plus rapide que Laurent, Séverine, elle, était la première à déballer son chariot dès l'ouverture.
Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Ah, c'est une machine à pâtes ! Cool, j'en voulais une.
Cette cliente régulière n'était pourtant pas venue pour ça, plutôt pour...
Acheter un jus de fruits, en plus, il n'y en a plus. Non, je suis arrivée, j'ai dit, ouais, il y a l'opération, c'est mort, viens, on achète un caddie.
À l'intérieur, on trouve un peu de tout.
Apparemment, ils savaient que je faisais de la pâtisserie. Ah non, c'est pas un moule à pâtisserie. Pour faire de la paella. Et le petit dernier, une centrale vapeur.
Et si ça ne lui plaît pas?
Si ça peut servir à quelqu'un de la famille, je l'offre. Après, sinon, ouais, je revends.
L'opération est nouvelle, alors beaucoup s'interrogent devant ces chariots mystères. Ali, lui, a des doutes.
Le problème, c'est de prendre quelque chose qu'on ne consomme pas. Je vois pas l'intérêt.
Même s'il est à deux doigts de se laisser convaincre.
Je vais appeler madame pour lui demander.
Si lui partira les mains vides, les 10 caddies auront trouvé preneur en une heure à peine.
Et voilà qui génère sans doute des emballages. 188 kilos par habitant et par an. Les eurodéputés et les États cherchent aujourd'hui à finaliser un texte pour verdir les emballages en Europe et surtout les diminuer.
7h12, objectif médaille olympique pour les rugbymen français.
L'équipe de France de rugby à 7 bien lancée. Elle vient de remporter cette nuit le tournoi du circuit mondial de Los Angeles 21-0 contre la Grande-Bretagne. Première victoire depuis 2005. Alors forcément, on se pose la question de l'effet Antoine Dupont, star du 15, qui vient s'essayer à 7, seule discipline représentée au jeu. Le demi de mêlée toulousain étincelant avec ses nouveaux coéquipiers.
Peut-être que les gens diront ça, mais c'est plus un concours de circonstances. L'an dernier, ils ont fait 4e sur l'année à l'année. J'étais pas là, donc c'est qu'ils sont capables d'eux. Mon rôle, c'est juste un joueur de l'équipe. Comme je disais, je suis encore en apprentissage, donc je ne vais pas faire des grands discours alors que c'est mon deuxième tournoi avec eux. En m'engageant dans ce projet olympique, c'était pour aller chercher une médaille et évidemment de cette couleur. Je savais que les mecs en étaient capables. Ça fait plusieurs saisons qu'ils font du travail, qu'ils progressent. Quand ils sont dans leur meilleur niveau, ils étaient capables de battre toutes les équipes que je le voyais sur les tournois. Donc je savais qu'il y avait ce potentiel.
Antoine Dupont avec Loïc Piala à Los Angeles. Et puis les Lensois plus forts que les Lyonnais. Clôture de la 24e journée de Ligue 1 de football. Les 100 et Or se sont imposés au Groupama Stadium 3-0.
Merci Anaïs Feugat. Dans 3 minutes, zoom exceptionnel à Téhéran, à la rencontre de la jeunesse iranienne, un an et demi après la mort de Mahsa Amini.